7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Amélie Beaucourt.
Bonjour et ravi de vous retrouver dans 7 milliards de voisins. Aujourd'hui, pour le coup d'envoi de l'Euro 2022 côté filles, on a décidé de se pencher sur ces femmes qui ont fait du sport leur métier. Si certaines l'exercent à un niveau professionnel, toutes n'ont pas le salaire de la joueuse de tennis Serena Williams ou de la gymnaste Simone Biles. Et que dire des coachs, des dirigeantes de clubs, des membres de fédérations, des arbitres ou des journalistes de sport? Pourquoi est-il si dur de vivre du sport quand on est une femme et comment y remédier? Pour en parler avec nous, Béatrice Barbus, vice-présidente de la Fédération française de handball, ancienne joueuse et ancienne dirigeante de club, et Mejdaline Miri, rédactrice en chef du magazine Les Sportives et coprésidente de l'association Femmes et journalistes de sport. On ira également faire un tour en Côte d'Ivoire avec Aminata Fofana et on fera escale au Sénégal où notre reporter Raphaël Constant a assisté à l'entraînement de foot de l'équipe féminine de Grand Yoff. Pour participer à l'émission, nous faire part de vos difficultés dans ce monde encore très masculin qu'est le sport, appelez-nous dès maintenant sur le WhatsApp de l'émission, le 33 7 64 45 51 41.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Béatrice Barbus, Mejdaline Miri, bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Béatrice Barbus, vous êtes, je le disais, vice-présidente de la Fédération française de hand, fédération relativement paritaire hein, d'ailleurs, puisque dans son bureau exécutif, vous êtes 7 femmes et 7 hommes, mais ça n'est pas le cas partout ailleurs. Au niveau des directions des fédérations, où est-ce qu'on en est ?
Alors, où est-ce qu'on en est ? On a progressé déjà par rapport aux années, aux mandatures précédentes. Une mandature pour une fédération, c'est 4 ans, entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, en fait. Alors, on a progressé. Il y a 17% de femmes qui président des fédérations olympiques et non olympiques en France. Donc, vous voyez que la très grande majorité de ces fédérations sont présidées par des hommes. Concernant les bureaux directeurs ou les conseils d'administration, alors, c'est difficile de le dire parce qu'on n'a pas de données très précises sur les bureaux directeurs, puisque la loi qui prévoit des quotas, mais simplement les instances de direction. Donc ça peut être le CA et puis ne pas respecter la parité ou les quotas, en tout cas au niveau des bureaux directeurs. C'est ce qu'explique d'ailleurs très très bien Annabelle Capret, où elle développe toutes les stratégies de contournement qu'ont mis en place un certain nombre de fédérations après la loi du 4 août 2014. C'est très intéressant. Donc nous, effectivement, donc difficile de vous répondre, je suis incapable de vous répondre en fait. Mais nous, ce qui est clair, c'est qu'à la Fédération française de handball, quand on a été élu il y a maintenant un an et demi, le fait qu'il y ait la parité au bureau directeur, donc celui qui se réunit le plus souvent et qui prend le plus souvent les décisions, ça n'a pas été discuté, ça n'a pas été discutable, ce n'était pas un sujet discutable, disons-le très clairement. Et donc toutes les femmes qui étaient sur la liste souhaitaient que ce bureau directeur soit paritaire, les hommes qui y figuraient aussi également, ça tombait bien, mais on ne s'était pas choisi pour rien non plus.
Mejdaline Miri, vous avez signé avec 150 consoeurs une tribune dans le journal Le Monde il y a plus d'un an pour dénoncer le peu de place que vous aviez, vous, journaliste sportif, dans les rédactions. Quel effectif est-ce que vous représentez ?
Alors, il y a très peu de chiffres, en fait, sur la présence des femmes dans le journalisme sportif. Encore une fois, et on voit que c'est un vrai manque quand on veut lutter pour l'égalité. En fait, l'absence de chiffres, voilà, ça reste des impensés. Mais concernant notre nombre, on sait qu'on est à peu près 10% de femmes journalistes dans le sport, donc 90% d'hommes, ce qui est énorme, en fait, là-dedans. On se doute aussi qu'on est... un peu plus nombreuses en télévision parce qu'il y a les animatrices, les présentatrices, c'est des postes sur lesquels on sollicite un peu plus. Par contre, on se doute aussi que en radio, où on va avoir la charge, par exemple, de commentaires, d'analyses techniques sur le sport, on va être bien moins nombreuses. Et c'est justement parce qu'il nous manque des chiffres qu'on a décidé avec l'association, eh bien, de travailler à la création d'un observatoire scientifique. On travaille avec Sandy Montagnola là-dessus pour pouvoir dégager des chiffres.
Pour avoir une base, tout
exactement,
simplement, pour ensuite
et pouvoir dire dans 5 ans, dans 10 ans, bah voilà, on a évoluer, ça va mieux, ça va moins bien, mais avoir des chiffres une bonne fois pour toutes.
Il y a une certaine ironie d'ailleurs dans ce que vous venez de dire, hein, puisque effectivement on a l'impression quand on regarde la télévision qu'il y a de nombreuses femmes qui sont là. Est-ce que c'est assez triste à dire, elles ont été placées là parce qu'elles sont visibles ?
Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des hommes qui les mettent à ces postes-là. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, j'imagine qu'il y a eu une réflexion de on va mettre des femmes qui sont souvent jolies, qui sont souvent blanches, qui sont souvent, qui respectent des critères, on va dire, de la masculinité, pour aller très vite. On va les placer là pour parler de sport. Ça va être la touche féminine, ça va être sympa à regarder. Il n'y a pas eu une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on partage l'analyse du sport, en fait, les uns les autres, parce qu'évidemment, les femmes aiment le sport, donc il n'y a absolument aucune raison qu'on en soit exclu. Cette analyse-là n'a pas eu lieu, je crois.
Et ça, on s'en rend compte quand on va dans les tribunes presse, donc effectivement, les petites zones qui sont réservées aux journalistes quand on va voir un match de basket, par exemple, ou de football. La face émergée de l'iceberg de ce grand monde, c'est le sort des athlètes féminine, évidemment. Pour le comprendre, on va partir tout de suite à Dakar, à la rencontre du club AFA, l'association football, une équipe féminine senior qui vient tout juste de monter en première division. Les joueuses ont entre 16 et 32 ans. Le club AFA a été initié par Abdou Afa Dieng en 2015 pour promouvoir le sport au féminin et prouver aux familles des joueuses que le sport peut être un facteur de développement. Notre reporter Raphaël Constant a suivi un entraînement dans le quartier de Grand Yoff. Il est presque 18h et des footballeuses s'activent sur le terrain en sable en bord de route.
Je m'appelle Delphine Quinta Mendoza. Je suis joueuse dans l'équipe AFA. J'ai 22 ans.
Et ça fait longtemps que vous jouez au football ?
Oui, depuis que j'ai 10 ans. J'aime ça parce que ça me divertit. Parce que j'ai joué pendant des années ici au Sénégal avec beaucoup d'équipes en Ligue 1. Après, j'ai changé d'équipe pour venir ici à AFA.
Et vous en vivez de ce sport ?
J'en vis parce que maintenant, le foot féminin, il y a un peu de changement. Avant, c'était difficile. Mais ce n'est pas toutes les équipes qui payent. Il n'y a que deux ou trois.
Et alors, j'aimerais bien comprendre pourquoi c'est difficile de jouer au foot quand on est une femme au Sénégal.
Ah, tu sais, certaines personnes, leur esprit là, c'est un peu fermé. Avant, quand on jouait au foot, il y a certains hommes qui passent, ils disent, oh, il faut aller cuisiner, votre place n'est pas ici, vous ne devez pas porter des shorts. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui change. Parce que quand on s'entraîne ici chaque jour, tu vois des hommes qui finissent leur travail, ils restent à côté pour regarder les entraînements, ils nous admirent, des fois ils nous encouragent.
Maintenant, c'est vrai que vous avez du public là, au bord de la route?
Beaucoup. Chaque fois quand tu viens, tu penses que c'est les hommes qui jouent, or que c'est des filles. Elles sont talentueuses aussi.
Pourquoi c'est important justement que les femmes puissent avoir une place dans le football?
Parce que le foot change beaucoup de choses. Certaines filles, avant de jouer, ils ne faisaient rien, mais le foot féminin ouvre beaucoup de portes. Certaines ont allé en Europe, d'autres en Maroc. J'ai même joué Ligue des Champions l'année passée au Caver là-bas.
Et qu'est-ce qu'en a pensé votre famille, par exemple, quand vous avez commencé à vous professionnaliser?
Ma famille aime ce que je fais. Parce que depuis que je suis gamine, ils me regardent jouer dans les rues comme ça. Ils m'ont beaucoup aidé aussi. Et des fois, les gens m'encouragent, me disent, il faut continuer à faire ce que tu aimes. Le foot, c'est bon. Tu es fort. Il ne faut pas écouter les gens. Parce que trop ou tard, si Dieu le veut, tu pourras réussir sur ça.
Et qu'est-ce que vous voulez faire alors?
Moi, j'aimerais un jour avoir un contrat, aller en Europe, jouer là-bas, jouer dans de bons clubs. Ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut avoir le temps. Il faut respecter les entraînements. Aussi écouter les conseils et savoir là où tu mets les pieds.
Qu'est-ce qui a été difficile pour vous pour faire votre place dans le football féminin?
Des fois, les gens t'insultent. Ils te disent, c'est le travail des hommes. C'est pas le travail des filles. Or que c'est pas vrai. Maintenant, les filles font beaucoup de sport. Quand tu joues, quand tu pars aux entraînements, tu te libères. Ça fait que beaucoup de gens te voient, ils se connaissent. Mon rêve est de faire cette équipe qui peuvent gagner la Coupe du Sénégal, finale championnat et monter en Ligue 1. C'est ça mon rêve.
Je vous laisse reprendre l'entraînement.
D'accord. Merci.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je m'appelle Abdou Dieng. Je suis le président du club AFA. En étant ancien joueur de football, j'ai investi pour aider certaines jeunes qui aiment le sport au Sénégal, notamment dans la commune où je suis né.
ici. À Grand Yoff.
À Grand Yoff même. Donc c'est un club qui à la base est un club masculin. Et en 2016, donc 16-17 ans après, nous avons créé une section féminine parce que je trouve que beaucoup de joueuses ont été rejetées par leur famille en voulant faire du football. Les parents souhaitent qu'elles fassent des études ou rester à la maison, aider leur maman dans les tâches ménagères. Donc moi, j'ai voulu un peu les valoriser, leur donner un statut social. Parce qu'à travers ce qu'on leur donne, après, elles peuvent régler leurs besoins que d'aller demander à papa ou à maman. Elles sont autonomes après. J'ai ouvert une boutique qui vend des produits dérivés du football, qui permet de créer des emplois. Et puis les bénéfices sont réinjectés dans le club pour faire de l'autofinancement du club, qui permet de payer les joueuses. Le football féminin est quasi 100% amateur. Les clubs n'ont pas les moyens, il n'y a pas de sponsoring qui permet au club d'avoir un fonds de roulement.
Et pour se rendre compte, vous les rémunérez combien, vos joueuses ?
De 30 euros, donc 20 000 CFA. Ça peut aller jusqu'à 120 000 CFA, c'est 180 euros. C'est beaucoup plus que le SMIC parce que certains joueurs professionnels masculins même n'ont pas un salaire de 180 euros, quoi.
Et pourquoi vous, alors, vous avez décidé de miser sur le football féminin ?
Pour moi, je trouve qu'il ne faut pas faire de discrimination. Les femmes aussi ont leur mérite sur le plan national. Je trouve qu'il faut aller les valoriser. Moi, je les vois s'épanouir. Certains arrivent à réaliser quelque chose auprès de leur famille, à participer dans les dépenses mensuelles avec leur salaire. Elles servent de modèle, quoi. Certains aussi qui financent même les études de leurs petits frères et de leurs petites sœurs. C'est important quand les parents ne peuvent pas. C'est un sujet très sensible en Afrique, en tout cas, vu que ce n'était pas bien vu avant. Mais maintenant, il faut que les familles s'ouvrent à cela, laisser leurs filles jouer en les accompagnant par des études, venir voir, connaître les éducateurs, ne pas se dire que bon, ma fille va jouer au football, ça va être un garçon manqué, voilà, des choses comme ça. Parce qu'avant, c'était cela, quoi.
Briser les clichés.
Voilà, exactement. Tout ce que j'attends aujourd'hui, c'est que ce sport féminin, ce foot féminin, se développe au Sénégal et qu'elle soit acceptée comme le football masculin. Voilà, avoir un championnat digne de ce nom, des sponsors, le professionnaliser, quoi. Voilà.
C'est bon, allez, retourne.
Un reportage de Raphaël Constant dans 7 milliards de voisins. Mejdaline Miri, je voudrais vous faire réagir sur cette appellation foot féminin qu'on a entendue, sport féminin en général. Qu'est-ce que ça vous évoque en tant que journaliste ?
Quand je suis devenue rédactrice en chef du magazine Les Sportives en novembre 2020, si je ne dis pas de bêtises, j'ai interdit aux journalistes d'utiliser cette appellation et je l'ai bien précisé à la secrétaire de rédaction qui relit tous les papiers parce que, évidemment, on spécifie ce que serait le foot finalement qui serait pour tout le monde, mais surtout pour les garçons et le foot féminin qui aurait cette particularité d'être joué par les femmes. En fait, le foot n'est ni féminin ni masculin, il est joué par des femmes et par des hommes. Alors, je comprends qu'on le dise de manière orale parce que c'est plus simple, mais en même temps, ça me paraît important d'avoir la réflexion quand même autour de ça, parce que le sport n'appartient à personne.
Vous êtes d'accord, Béatrice Barbus ?
Bien évidemment que je suis d'accord. Dans mon livre du sexisme dans le sport, c'est ce que j'explique. On ne dit pas d'une jeune fille qui fait du violon qu'elle fait du violon féminin. Si, vous dites ça, vous ?
Non.
Bon, alors. Donc, pourquoi on dirait qu'elle fait du foot féminin ? Donc, c'est une évidence que c'est une expression qui ne convient pas, qui n'est absolument pas adaptée. Maintenant, comme vient de le dire Mejdaline, effectivement, à l'oral, quand vous parlez comme ça, c'est beaucoup plus pratique de dire à un moment donné, voilà, c'est du foot féminin. Mais on est dans une époque, charnière, transitoire. Donc c'est des choses qui vont finir par se régler et je suis sûr que, je ne sais pas si je le connaîtrais, mais je suis sûr que dans quelques décennies, on ne fera plus la distinction.
D'autant que les règles sont les mêmes, les terrains font la même taille, dans de nombreux sports, donc vraiment il n'y a pas de différence notable, quoi.
Mais non, en fait, on pourra dire foot féminin ou sport féminin quand on dira de l'autre côté de la même façon sport masculin et foot masculin. Si vous prenez le qualificatif de féminin et masculin de manière systématique, il n'y a aucun problème. Le souci, c'est qu'on spécifie que lorsqu'il s'agit des femmes qui pratiquent. On ne spécifie pas lorsqu'il s'agit d'hommes. Regardez le palmarès de l'équipe de France de football. C'est d'une évidence. On parle du palmarès de l'équipe de France masculine. Bon, en même temps, il faudrait que les filles aussi fassent leur propre palmarès. J'espère qu'elles commenceront par cette Coupe d'Europe.
Et d'ailleurs, Mejdaline Miri, vous avez un pronostic sur ce qui va se passer
Alors, je souhaite juste aux Bleus de réussir à dépasser le quart de finale qui leur a été fatidique sur les dernières compétitions auxquelles elles ont participé. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'équipes qui pouvaient prétendre à l'emporter. Donc non, je vais tous les Français, je vais supporter les Bleus et j'espère qu'elles vont aller le plus loin possible dans la compétition.
Alors il y a une réalité en revanche qui est que sur le terrain, que ce soit dans le football ou dans d'autres sports, les joueuses, les athlètes n'ont pas les mêmes chances que leurs homologues masculins. On va en parler notamment avec Lauriane qui nous appelle de Kisangani en RDC. Bonjour Lauriane.
Bonjour.
Alors Lauriane, vous faites du karaté. Et vous avez commencé plus jeune, mais vous étiez l'une des seules filles. On vous a dit rapidement que ce n'était pas un sport fait pour vous. Vous nous racontez ?
Oui, merci. Déjà, c'était à l'âge de 15 ans que j'ai commencé à pratiquer le karaté. Et j'étais déjà robuste de masse. J'avais vraiment une masse imposante. Alors déjà, avec des amis, ce n'était pas facile. Des collègues de la classe et tout. Et après, je me suis dit, il faut que je puisse m'intégrer pour faire un sport. Et c'est le karaté qui m'avait vraiment plu. Et facilement, je me suis intégrée. Mais seulement mon intégration dans notre salle, dans notre club, c'était pas facile parce que déjà, je n'étais pas la bienvenue. Vu que j'étais l'unique fille dans le groupe, il n'y avait que des garçons. Alors, déjà, quand j'arrive, on me dit « qu'est-ce qu'elle vient faire là ?» Bon, moi, je dis « oui, je viens faire le karaté ». Et déjà, avec ma masse, ça n'allait pas. Et avec tout ce qu'il disait comme de critiques un peu dégradants et tout, que le karaté n'est pas fait pour le fille. Si je vais faire du sport, il faut que je puisse aller faire soit les foot, qui est ouvert à tout le monde, et les gymnases et toutes choses, mais pas le karaté. Ben, moi, je me disais, ben, je vais franchir un peu cette limite qui vous êtes fixée. Donc, moi, je fais le karaté. Et au début, c'était pas facile. Tu viens à l'entraînement et on se moque de toi. On te donne des exercices extrêmement difficiles juste pour voir jusqu'où vous pouvez aller et tout.
Des exercices difficiles pour vous décourager, je suppose.
Oui, c'était difficile parce que déjà, c'était une détermination. Je m'étais dit, je dois faire ça parce que j'avais besoin d'abord de maigrir et parce que je voulais faire un sport quotidien, un sport. Et j'avais des parents qui me motivaient déjà. Mon père faisait le boxe à son temps et il me motivait un peu. Et voilà, depuis de toutes ces paroles qui me décourageaient et tout, je n'ai pas lâché prise et voilà.
Alors, restez avec nous, Lauriane. J'en profite pour poser une question à Béatrice Barbus. Je vous vois acquiescer pendant le témoignage de Lauriane. Des petites filles comme ça qu'on décourage dans des pratiques sportives, c'est courant ?
C'est le quotidien.
C'est le lot quotidien.
Oui, le sexisme ordinaire, les insultes sexistes, comme ça a été aussi expliqué dans le reportage précédent, où on vous met face à des situations, on vous met dans des conditions, comme vient de l'expliquer la dame, on vous met dans des conditions qui sont tellement difficiles que vous finissez par arrêter, par abandonner, tout simplement. Donc ces conditions, ça peut être des conditions verbales. Voilà, on n'arrête pas de vous mettre des petites remarques d'ordre sexiste qui, au bout d'un certain temps, commencent vraiment très sérieusement à nous gonfler. Ou alors, c'est des conditions, on vous fait peut-être des exercices, alors que vous n'êtes qu'une débutante, que l'on ferait faire à quelqu'un qui est plus aguerri. Pour des jeunes filles qui commencent à faire de la compétition, je regardais hier soir le reportage, le documentaire Let's Fucking Go avec les américaines, les footballeuses américaines. Voilà, les footballeuses américaines qui racontaient des années 80, 70, 80, comment elles étaient traitées. On réservait pas leur place dans l'avion, donc elles étaient là où elles pouvaient se mettre, dans des hôtels.
Des embûches sans cesse sur leur parcours,
des hôtels minables avec des cafards partout. Ouais, donc voilà, des embûches, vous avez dit le mot qui le convenait, des embûches à tous les niveaux. Partout, des équipements qui ne sont pas faits pour vous, etc. Donc si vous ne faites pas fi de tout ça, si à un moment donné vous ne vous moquez pas du maillot qu'on va vous donner, de la chambre dans laquelle vous allez faire votre stage, si vous ne vous moquez pas de tout ça, c'est clair que vous
c'est
êtes...
C'est facile d'être découragé.
Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de... Elle le dit fort bien dans son reportage. Je crois qu'il faut faire preuve d'une très grande détermination, savoir vraiment pourquoi on est là. Et quand on le sait, et ben on arrive à dépasser tout ça. Et puis, comme ça a été dit dans les différents reportages, à acquérir de l'autonomie, de la fierté, de l'estime de soi et de se sentir, du coup, elles l'ont toutes dit, plus forte. Et être plus forte, c'est pas seulement dans l'activité physique et sportive que l'on pratique, mais c'est aussi dans la vie de tous les jours.
En fait, il faut bien comprendre que le sport est genré à travers son histoire. En fait, on a vraiment poussé les petites filles à faire certains sports autour de la grâce, de l'élégance, etc. Et pas d'autres. Et donc, évidemment qu'il y a des sports, effectivement, comme le karaté. On va clairement décourager les petites filles à faire cela. La boxe est olympique depuis seulement 10 ans pour les femmes. C'est impossible pour un homme de faire de la natation synchronisée à très haut niveau et surtout pas aux Jeux Olympiques. En fait, on réserve vraiment certains sports.
Il y a des sports de filles et des sports de garçons.
Exactement.
Sauf que quand on fait le compte, ce sont quand même les femmes qui sont les petites filles qui sont les plus discriminées par rapport aux hommes.
Mais Lauriane, vous avez justement fait preuve de détermination, c'est ce que vous nous expliquez. Vous avez continué et aujourd'hui, vous faites encore du karaté.
Oui, 5 ans après, je finis l'université et maintenant je suis avocate. Mais en dépit de cette fonction que j'ai, je continue à m'entraîner chaque jour. Je continue à participer à des compétitions, tant locaux que nationaux. Et... ce qui est important, c'est que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des stéréotypes et des us et coutumes qui continuent à peser sur nous. Vu qu'on est encore dans cette situation-là de développement, de sous-développement et tout. Alors les stéréotypes et les exécutifs vraiment sont en train de prendre de l'ampleur. Et ça fait que beaucoup de jeunes filles comme moi, ils peuvent commencer, mais après quelques temps, ils se découragent, ils abandonnent. Et ils ne tiennent pas jusqu'au bout.
Vous avez parfaitement résumé la situation. Les invités hochent la tête ici en studio. Merci beaucoup, Lauriane.
Et bon courage, Lauriane. Bon courage, continuez.
Oui, continuez à vous entraîner tous les jours. C'est, si vous arrivez à vous libérer du temps sur votre métier d'avocate, c'est
fort.
Super.
C'est très fort.
Elle a dit quelque chose d'intéressant. Lauriane a parlé de stéréotypes. En fait, et de dire qu'on est dans une période où ils ressortent. C'est vrai que ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre. Avant, c'était il y a 20 ans, il y a 10 ans même. On n'en parlait pas de ces stéréotypes de genre dans le sport. Voilà, parce qu'on ne parlait pas de sexisme, on ne parlait pas de tout ça. Maintenant qu'on commence à en parler, on est obligé de mettre des mots sur des phénomènes que l'on rencontre, sexisme, stéréotypes. Et donc, il est tout à fait logique que dans cette période un peu transitoire, quand je dis transitoire, parce que j'ose espérer qu'après cette période transitoire, il y a la victoire, on n'en parlera plus, il n'y aura plus de stéréotypes genrés, il n'y aura plus de sexisme, ou en tout cas moins, beaucoup moins. Et voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette période un peu transitoire où effectivement, on fait ressortir, et c'est très bien, hein, comme encore une fois le disait Simone de Beauvoir, nommer, c'est dévoiler, et dévoiler, c'est déjà agir. Donc, on avance.
Ça rejoint votre travail sur les chiffres dont vous nous parliez tout à l'heure. On va continuer à parler de ce sujet dans quelques instants, mais d'abord, on écoute Libre, l'un des derniers morceaux de l'international belge Angèle.
Libre, me voilà, c'est ma voix là, la suite en musique, sur scène en coulisses. Libre, me voilà. J'étais jamais devant, oh non.
Écoutez 7 milliards de voisins sur RFI avec aujourd'hui Béatrice Barbus, vice-présidente de la Fédération française de handball, et Mejdaline Miri, journaliste de sport. On parle de féminisation des métiers du sport, évidemment, et on va partir tout de suite en Côte d'Ivoire aux côtés d'Aminata Fofana. Bonjour Aminata.
Bonjour, bonjour Amélie.
Aminata Fofana, vous êtes membre du comité exécutif du comité national olympique de Côte d'Ivoire. Vous êtes 3 femmes sur 15 membres dans ce comité exécutif, en infériorité numérique donc, on l'a compris. Est-ce que c'est un cas isolé en Côte d'Ivoire ou est-ce que c'est la même chose dans les organes de décision des autres fédérations ivoiriennes, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Béatrice Barbus ?
Oui, Amélie, en effet, c'est le cas partout. Hein, c'est le cas partout dans nos associations, dans nos organisations sportives fédérales. Et j'irai plus loin même encore pour dire même dans certains pays africains. Et donc, voilà, c'est la situation que nous vivons. C'est déplorable, mais il y a du travail qui est fait quand même pour pouvoir améliorer les choses. Et donc, voilà, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est je vous dirais, sur une vingtaine de fédérations nationales olympiques. Il n'y a pas de femmes aujourd'hui. Il y en avait une pour la gymnastique, la présidente de la Fédération ivoirienne de gymnastique qui a été débarquée la semaine dernière lors de l'Assemblée générale élective. Vous comprenez donc aujourd'hui, sur la vingtaine de fédérations olympiques, il n'y a pas de femmes. C'est vraiment dommage. Hein. Oui.
Aminata Fofana, vous avez vous-même été joueuse de volley-ball au niveau de la pratique professionnelle. Est-ce que c'est différent ? Est-ce qu'on atteint un peu plus de parité en Côte d'Ivoire ?
Alors, un effort est fait à ce niveau concernant la participation des femmes athlètes. Hein. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui ont été mis en place quand nous étions, parce que j'ai été également membre de la Fédération ivoirienne de volley-ball à un moment donné, et nous avons demandé à ce que chaque club membre de la Fédération ait une équipe féminine et masculine en même temps pour pouvoir participer au championnat. On a travaillé sur cela. Et donc, aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire, et je dirais même partout ailleurs, pratiquement, et je vais prendre le cas des Jeux olympiques, les derniers Jeux olympiques de Tokyo, il y a un effort qui est fait. On a dépassé les 45% de taux de participation pour cette compétition planétaire, celle qui constitue les Jeux olympiques. Donc, au niveau de la pratique des femmes en tant qu'athlètes, je dirais au niveau des femmes athlètes, il y a une nette amélioration de la participation. Par contre, et vous l'avez si bien dit dans votre présentation, Amélie, les femmes sont encore sous-représentées. Elles sont absentes des salles de conseil d'administration. Elles sont absentes des salles de compétition. Et je crois que c'est un peu partout comme ça.
Alors vous êtes l'exception qui confirme la règle, puisque vous êtes passé d'athlète à membre justement de ces instances dirigeantes. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, en tant que femme, d'en arriver là ? Est-ce que vous avez eu l'impression que pour obtenir ce poste, vous avez dû vous battre plus qu'un homme, par exemple ?
Oui, Amélie, ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, je suis satisfaite de mon parcours. Et je tiens à le dire, c'est vrai, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais je suis vraiment fière de ce que j'ai eu à faire parce qu'il a fallu se battre. Il a fallu se battre, en effet. Et donc, il faut beaucoup, beaucoup de courage. Je dirais même, il faut, entre guillemets, être effronté et refuser le paternalisme qui existe dans le sport. Parce que quand vous êtes... Amélie, vous écoute.
Je vois Béatrice Barbus qui acquiesce à côté de moi. Elle a un parcours à peu près similaire. Vous avez été joueuse de handball, Béatrice, et maintenant vous êtes vice-présidente de la fédération. Vous avez l'impression effectivement qu'il faut être effrontée.
Ah oui, il faut être transgressive. Voilà. Mais entièrement, mais totalement à 100% d'accord avec vous, Aminata, franchement. Bien sûr qu'il faut être affronté, bien sûr qu'il faut être parfois même insolente, transgressive, subversive, sinon vous n'avancez pas et vous n'y arrivez pas. J'imagine tout ce par quoi elle a dû passer, comme moi, comme toutes les femmes qui arrivent à des postes à responsabilité dans le sport. Voilà, donc ça se fait... Oui, bien sûr.
Aminata, vous avez travaillé également au ministère des Sports sur ces questions de genre dans le sport. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des stratégies qui sont mises en place pour que, justement, les femmes puissent accéder à ces postes comme le vôtre sans devoir se battre bec et ongles ?
Oui, je dirais plutôt que cela a été possible par la volonté d'une dame qui était ministre des Sports en son temps et qui arrivait au ministère des Sports dès la première réunion, pour la petite histoire, la première réunion, une seule femme en réunion de cabinet. Donc, la ministre, elle ne comprend pas et elle dit, mais attendez, il n'y a pas de femme cadre. Qu'est-ce qu'il faut pour être sous-directeur, pour être directeur, pour avoir un poste de responsabilité dans ce ministère? Et donc, on dit, ah, il faut être un cadre, il faut être ceci, etc. Elle demande alors, il n'y a pas de femme cadre dans ce ministère? On lui dit, mais si, il y en a. Et donc, nous avons fait des entretiens avec cette dame, ministre. On a eu des entretiens. Elle a rassemblé donc toutes les femmes cadres du ministère. On a eu des entretiens avec elle, avec les membres du cabinet. Et nous avons eu nos premières nominations. Je me souviens, c'était en 2001. Nous avons été peut-être 5-6 femmes à des postes de responsabilité sous-directrice, directrice centrale, etc. Et donc, moi, à mon niveau, notre sous-direction a donc mis en place un certain nombre de mécanismes pour d'abord améliorer, pour d'abord accompagner les jeunes dames qui étaient dans le ministère avec lesquelles nous travaillons. Et ensuite, sur le terrain, nous avons mené aussi des actions pour n'est-ce pas, emmener les femmes à faire plus de pratiques. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de ce que nous avons fait au niveau de la Fédération de volley, par exemple, parce que j'ai été également de 2000 à 2008 secrétaire général et vice-président de la Fédération. Nous avons mis des mécanismes comme cela. Voilà. Et nous avons fait beaucoup de sensibilisation. Donc, c'était dans le cadre d'un plan stratégique que nous avons élaboré avec au sein du ministère pour n'est-ce pas, pouvoir mettre en place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont cadres et qui ont des postes de responsabilité au ministère des Sports. Mais dans le mouvement sportif olympique, ça reste encore
marginal.
Mal. Voilà, voilà. Vraiment, si je peux m'exprimer ainsi.
Mais Jdaline Méry, vous voulez y réagir?
Oui, parce que à propos, dans ce que j'entends, dans ce que dit Aminata, il y a cette idée de sororité, d'entraide qui est très importante et que nous, on a développé à l'association Femmes Journalistes de Sport. En fait, on a constaté que les femmes journalistes dans cette branche-là n'étaient pas forcément au courant de tous les jobs qui pouvaient y avoir. Dans le journalisme, c'est particulier. Il n'y a pas vraiment un site qui retransmet toutes les annonces de travail. Ce qu'il faut, c'est du réseau. Sauf qu'en fait, quand on démarre, quand on est exclu de certains lieux, ben, on ne l'a pas sur réseau. Et toutes les adhérentes de l'association, désormais, elles peuvent accéder à un groupe WhatsApp où, en fait, dès qu'on entend parler d'un poste, dès qu'on entend parler voilà, d'un job, etc., et ben, on se le partage. Et en fait, on sait qu'on a déjà changé la vie de jeunes filles, de femmes de l'association parce qu'elles ont entendu parler d'un boulot, elles ont postulé et elles ont été prises. On a mis en place un annuaire en ligne parce que les chefs adorent dire qu'ils aimeraient bien recruter plus de femmes mais qu'elles ne postulent
mais qu'elles ne sont pas là.
Et qu'il n'y a pas de CV, qu'elles ne sont pas là. Et donc du coup, toutes les membres de l'association peuvent développer leur profil en ligne et donc potentiellement, si on est un chef et qu'on veut embaucher des femmes, il suffit d'aller sur cet annuaire pour pouvoir accéder à différents profils. Et donc vraiment cette sororité, cette bienveillance, cette entraide, cet accompagnement. On a mis en place du marrainage aussi dans l'association dès qu'en fait on rentre dans l'association et qu'on est une jeune fille, on est accompagnée par une femme plus expérimentée, et ben en fait c'est cet échange-là, c'est cette solidarité-là qui permet aussi, c'est l'une des pistes pour faire avancer les choses.
Si je peux me permettre, moi, dans tout ce qui vient d'être dit là, par Aminata, par Mejdaline également, il y a deux choses qui sont... il faut une volonté politique, elle vient de le dire Aminata, qu'elle soit fédérale ou qu'elle soit ministérielle. S'il n'y a pas une volonté politique forte au plus haut sommet d'une fédération ou d'un État, vous ne pouvez pas avancer. La deuxième chose, je constate, et vous le constatez aussi, qu'à chaque fois, ce sont des femmes qui prennent en main leur destin pour essayer de changer le monde dans lequel on vit. Vient de le dire, Aminata, c'est une femme qui, voilà, la ministre qui s'est retrouvée. Non, mais qu'est-ce qui se passe? On va faire quelque chose.
Qui s'est sentie un peu seule, voilà. Tout là-haut.
Les journalistes, mais Janine vient de vous le dire, ce sont des femmes qui se sont organisées en association pour faire avancer les choses. Donc, on dit souvent, c'est une affaire d'hommes aussi. Oui, c'est une affaire d'hommes. Et heureusement, puisqu'on a entendu le monsieur qui a créé le club de foot tout à l'heure, hein, au Sénégal, et qui disait, ben, moi, ça m'a paru évident à un moment donné de développer une section féminine. Heureusement qu'il y a des hommes qui nous aident. Mais en grande partie, et c'est le message aussi que je voudrais faire passer, c'est quand ce sont les femmes qui ont pris leur destin en main que les choses ont réellement bougé pour entraîner ensuite avec elles, bien entendu, des hommes qui veulent bien nous aider. Donc le message, il est simple. Que vous soyez sportive, que vous soyez dirigeante, que vous soyez journaliste, que vous soyez arbitre, que vous soyez entraîneuse, peu importe votre fonction dans le sport, prenez votre destin en main, engagez-vous, pas toute seule. Maintenant, il y a des réseaux qui sont créés, il y a des associations, et donc il y a le moyen d'être ensemble et effectivement de faire preuve de sororité. Sans sororité, c'est très important. Sans sororité, on ne peut pas avancer. On se blesse, on se mutile à titre individuel si on avance seul. Donc c'est extrait. Et ça, c'est pas une leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon y compris des anciennes féministes, des premières féministes. Donc avançons ensemble, que ce soit par réseau informel, par association. Mais ce qui vient d'être dit est extrêmement important.
Aminata Fofana, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là et vraiment, je viens d'entendre des choses tellement formidables. Tout à l'heure, c'est Miri, la journaliste, qui a parlé qui a donné des mécanismes qui sont vraiment… ici, nous avons eu l'habitude de travailler de façon, je dirais, entre guillemets, solitaire, parce qu'on vous appelle. Parce que vous êtes secrétaire général du comité olympique, on vous dit, venez parler à des jeunes dames. Il y a aujourd'hui une conférence que vous allez donner, mais au fond, il n'y a pas eu ce réseautage. Il a été fait, mais il n'a pas tenu. La première association Femmes et Sport qui a été mise en place, que nous avons suscité lorsque nous étions à la sous-direction Genre et Sport, n'a pas fait long feu. Aujourd'hui, nous avons recommencé et nous allons utiliser ce que nous venons d'entendre pour mettre en place vraiment un véritable réseau et avec tout ce qui va avec, en fait, pour accompagner ces jeunes filles. Mais sinon, nous avons eu l'habitude de travailler de façon sporadique lorsque nous avons l'occasion de prendre la parole. Partout où nous avons eu l'occasion de prendre la parole, nous avons essayé de booster, d'encourager, que ce soit les filles athlètes, que ce soit les femmes, les anciennes, disons les anciennes sportives qui sont aujourd'hui des femmes qui sont dans certains métiers. Nous leur demandons parfois de venir,
de rester dans le sport, de rester dans le sport pour aller coacher, pour aller… Oui, Béatrice Barbus a une question pour vous, Aminata.
Aminata, quand vous parlez de l'association Femmes et Sport qui a périclité un petit peu et que vous essayez de réveiller aujourd'hui, elle a été créée quand pour la première fois?
C'était en 2001, entre 2001 et 2003, voilà. C'est en 2001 que nous sommes arrivés au ministère. Nous avons été nommés en tant que sous-directrice et nous avons fait ce travail.
Ouais, et donc l'air du temps à l'époque ne s'y prêtait, mais du coup après il y a eu une petite retombée et aujourd'hui vous avez raison de la faire revivre parce qu'aujourd'hui on est dans un contexte mondial où vous le voyez, hein, tout on le voit, où il y a les femmes s'organisent et je crois qu'aujourd'hui on a intérêt à le faire parce qu'aujourd'hui ça parle plus peut-être qu'au début des années 2000.
Mais il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, il y a une association de femmes journalistes de sport qui s'est créée et qui a périclité extrêmement rapidement. Aujourd'hui, on a sorti notre association le matin de la diffusion du documentaire de Marie Portolano derrière a permis vraiment de populariser, on va dire, cette lutte-là.
Marie Portolano qui, pour leur préciser, est une journaliste…
Oui, tout à fait.
Qui travaillait sur…
À télévision, à Canal+, et qui, du coup, a donné la parole dans son documentaire à une dizaine de femmes du milieu. Et
qui racontent leurs difficultés à travailler dans les rédactions.
Exactement.
Avec un titre fort, puisque le titre était « Nous sommes toutes…
Je ne suis pas une salope. Ouais, je suis une journaliste, je ne suis pas une salope. Ouais, voilà. Tout à fait.
Aminata Fofana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a compris votre message et il fait écho à ce qu'on entend depuis le début de cette émission. Saisir toutes les opportunités et ne pas se lâcher entre femmes non plus pour faire avancer.
Bon courage Aminata, bon courage à vous vraiment.
Merci. Et une chose que je voudrais ajouter avant de terminer, est refuser de se laisser manipuler. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de sororité. C'est vrai, il le faut. Parce que souvent, les femmes dans le sport se laissent manipuler par les hommes. Il faut refuser cela.
Merci beaucoup Aminata. On va partir tout de suite, on va rester en Côte d'Ivoire à Abidjan avec Faouziatou. Vous êtes avec nous Faouziatou ?
Oui, bonjour Amélie.
Bonjour Faouziatou, vous êtes originaire du Bénin et c'est pour l'équipe nationale du Bénin justement que vous jouez au basket. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, effectivement, j'ai été capitaine de l'équipe nationale du Bénin, mais en 2012, j'ai été victime d'un accident de la circulation qui a entraîné l'amputation de ma jambe droite. Mais je continue toujours de pratiquer le sport en fauteuil roulant. Et depuis 2 ans, j'habite maintenant à Abidjan, Côte d'Ivoire.
Qu'est-ce que...
Vous faites quel sport, Faouziatou, en fauteuil ?
Du basketball.
Du basket ? Très bien.
Le basketball, oui, et le lancer de javelot.
Vous êtes donc à un niveau professionnel. Vous avez été élue meilleure joueur du championnat. Vous étiez la seule femme avant 2012, si j'ai bien compris.
Effectivement.
Vous racontez la difficulté aussi pour vivre de ce sport. Est-ce que vous parvenez à en vivre, Faouziatou ?
Pour le moment, non. Franchement, c'est par amour pour le sport que je continue, d'accord ? Parce que il faut l'avouer, il n'y a pas assez de moyens. Et donc, si on doit s'appuyer uniquement pour le sport, pour vivre, ça sera un peu très difficile.
Donc c'est une question de salaire, de revenus finalement.
Oui, effectivement. Et franchement, ce serait bien si les autorités mettent un peu plus de volonté politique dedans et qu'ils instituent un cadre légal pour cela.
Alors c'est vrai
ça
qu'on
pourrait par exemple... accorder des allègements fiscaux aux entreprises qui vont sponsoriser le sport, ça aiderait beaucoup.
C'est vrai qu'on entend souvent ça au niveau des sports en général.
C'est les mêmes problématiques en France. Hein. Non, parce qu'il faut qu'on se le dise. Hein. C'est, de ce point de vue-là, on n'est pas plus avancé. Hein. Je vous le dis sincèrement. Hein. Vous parlez de métier, mais pour des postes de dirigeants, etc., ce n'est pas un métier. Hein. Je suis bénévole, on est toutes bénévoles. La plupart des arbitres sont indemnisés uniquement. La plupart des sportifs qui jouent au très haut niveau et qui participent aux Jeux Olympiques ou Paralympiques sont toutes bénévoles. Elles sont amatrices, pardon. Elles ne sont pas professionnelles. Il y a très très peu de femmes qui aujourd'hui gagnent leur vie en faisant du sport. Très très peu.
On parlait
et alors
aussi
si vous êtes en plus non valide, ça rajoute en plus la difficulté. Il y a une double discrimination.
Mais Aline Méry, effectivement, on parlait tout à l'heure, on l'a entendu dans le reportage qui est passé en début d'émission, ces écarts de salaire aussi entre les hommes et les femmes. Faouziatou, je pense que vous le constatez aussi dans votre sport, il y a des primes qui sont très inférieures chez les filles que chez les hommes. Et c'est une question de sponsor aussi, visiblement. Vous ne trouvez pas de sponsor, Faouziatou ?
Effectivement, c'est très difficile parce que déjà... Les médias en parlent peu, d'accord. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Bon, si tu n'es pas au courant, comment tu peux arriver à sponsoriser? Et même quand certaines personnes arrivent à sponsoriser, on se rend compte qu'il y a une très grande différence au niveau des primes. Une équipe féminine, par exemple, peut être première, peut occuper la première place d'un championnat, mais ces primes seront très, très inférieures à une équipe masculine qui, par exemple, n'est même pas arrivée au troisième. Au troisième rang. Donc, c'est vraiment de la discrimination. Je rêve d'un monde où on pourra arriver à obtenir des résultats comme l'équipe féminine des États-Unis qui a réussi à convaincre les autorités à avoir le même salaire que les hommes. Ça va vraiment changer beaucoup de choses si l'on dit que du sport, pour le moment, c'est pas de la réalité, on est encore loin. Et les problèmes aussi qu'on a côté.
Faouziatou, Fawziato, on va devoir vous laisser parce que la ligne commence à saturer. En tout cas, on a bien compris votre message et Béatrice Barbus et Mézaline Miri étaient d'accord avec ça. On arrive malheureusement à la fin de cette émission et on ne va plus pouvoir dire grand-chose. En tout cas, on a compris que c'était un sujet sur lequel il fallait qu'on revienne peut-être plus souvent. Mézaline Miri et Béatrice Barbus, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage que vous avez écrit en 2022, qui est paru en 2022, Du sexisme dans le sport aux éditions Anna Mossa. Et j'invite aussi les auditeurs à vous lire dans le dernier numéro, le dernier hors-série de Cosette consacré au sport. Mézaline Miri, on espère vous lire également dans le magazine que vous
mais rédigez. Et puis aussi
les sportives
évidemment, les sportives bien sûr, qui donc traite uniquement du sport au féminin, mais aussi puisqu'on en parlait rapidement avant l'émission, du commentaire sur Eurosport, puisque je fais partie des très 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 rares femmes, je dis très 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 plusieurs fois, qui commentent le sport et qui ne sont pas d'anciennes sportives de haut niveau, et qu'on peut entendre sur la Ligue des Champions masculine et féminine de handball sur Eurosport,
pour notre plus grand plaisir. Juste avant de se quitter, on écoute Bom Bom de l'Angolais Batida et la Capverdienne Mayra Andrade.
Hoje lutei pra conseguir me levantar. Quando acordei, meu coração quase parou. Sei que sonhei, mas não consigo recordar. Eu me deixei até que a vida me chamou. Maleça.
Pour aujourd'hui, merci à Romain Dubrac à la réalisation et à Juliette Brault et Delphine de Dianous. On se retrouve demain pour une émission sur l'humour. Alors si vous êtes fidèle auditeur de RFI, vous connaissez sans doute Maman et ses chroniques. Eh bien, on lui demandera s'il est possible d'apprendre à être drôle. Si vous avez la réponse, évidemment, appelez-nous sur le WhatsApp de l'émission, le 337 64 45 51 41. À demain, même heure sur RFI.